Alors, j'ai la tâche. On m'entend bien là ? Vous m'entendez ? Le micro passe. Bon, j'ai pas trop de retour, donc très bien. J'ai l'agréable tâche de vous présenter, ou plutôt d'aider Aliette de Bodard à se présenter. Et Aliette de Bodard est une femme tout à fait exceptionnelle par la multiplicité de ses origines, de ses langues et de ses œuvres. Alors Aliette, si tu veux bien, je vais commencer par te demander de nous résumer un petit peu ton parcours scolaire et universitaire et personnel, et puis de nous dire quelques mots sur ton activité actuelle.
D'accord, bon, il n'y a pas de souci. Alors moi je suis ingénieur de formation, donc j'ai fait mes études à l'école polytechnique et ensuite je suis rentrée, j'ai d'abord travaillé en informatique en vision par ordinateur et ensuite maintenant je travaille chez Alstom où je fais des systèmes de métro automatique, donc je fais tout ce qui est architecture et spécification fonctionnelle. Donc ça c'est pour la partie... on va dire un peu mathématiques, la partie plus littéraire, donc j'ai commencé à écrire, on va passer sur les livres de qualité douteuse que j'ai écrits quand j'avais 12 ans et des poussières, j'ai commencé à vraiment vraiment écrire pour la consommation des autres quand j'étais donc à l'école, et ma première nouvelle a été publiée donc dans Interzone en 2007. Suite à quoi j'ai publié des nouvelles à droite à gauche dans plusieurs marchés, puis en 2012 j'ai publié Immersion qui a gagné le prix Locus et le prix Nebula, et en 2013 The Waiting Stars qui a aussi gagné le prix Nebula. En parallèle j'ai publié donc trois romans donc chez Angry Robot, dont un a été traduit aux éditions Eclipse. Donc en anglais c'est Servant of the Underworld, Harbinger of the Storm, Master of the House of Darts, et en français ça a été traduit sous d'Obsidienne et de Sang. J'ai donc également publié donc un roman court donc qui est dans l'univers d'une grande partie de mes nouvelles, qui est un empire intergalactique basé sur la culture chinoise et vietnamienne, en Red Station Drifting, donc qui est bon. Il y a une version espagnole, italienne, chinoise, mais pas de version française. Malheureusement. J'ai oublié la particularité où j'écris en anglais, même si j'habite en France.
Oui, on va y revenir.
Je n'en ai aucun doute. Mon dernier roman, donc The House of Shattered Wings, qui est de la fantasy post-apocalyptique qui se passe dans les ruines de Paris, qui est sorti donc en août. Donc c'est un peu tout frais. Et là, je suis en train de travailler sur plein de choses en même temps, mais notamment sur la suite. Je pense que ça résume à peu près bien.
Pas tout à fait, tu me permets. Tu es née à New York, comment ça se fait ?
C'est un peu un accident en fait. Mon père travaillait pour Bank of America à l'époque, et donc il a été expatrié à New York pendant quelques années, et ça a coïncidé avec les années où ma mère était enceinte. Donc, je suis née aux États-Unis, j'y suis restée de âge 0 à 1 an, donc la dernière photo qu'on a de moi, c'est je suis en train de marcher sur une plage de Géorgie quelque part, et je n'en ai rigoureusement aucun souvenir.
Et au cours de cette première année d'existence, tu as appris l'anglais d'une façon aussi parfaite que tu le parles aujourd'hui.
Dans le ventre de ma mère, clairement. Plus sérieusement, en fait, ce qui s'est passé, c'est donc... mes parents ont toujours poussé pour que ma sœur et moi, on parle anglais bien, parce que c'était important pour eux qu'on parle d'autres langues que le français. Et j'ai eu la chance, en fait, de vivre à Londres entre 16 et 18, où j'ai découvert tout ce qui était science-fiction anglaise. J'ai dévoré de couverture en couverture, et c'est un peu comme ça que j'ai commencé à écrire en anglais. En fait, c'est tout ce que je lisais était en anglais, donc ça me paraissait naturel de le continuer comme ça. Oui, si j'avais réfléchi, je ne sais pas si... À l'époque, je ne sais pas si j'aurais continué comme ça, mais...
Mais tu as fait donc dès le secondaire pour arriver à Polytechnique, ce qui n'est pas un mince exploit. Tu as fait des études scientifiques avant. Tu avais une filière scientifique déjà au lycée.
Oui, j'étais en S au lycée. Et ensuite, j'ai fait mes classes préparatoires à Lille-Grand. Et ensuite, j'ai eu la chance de rentrer à Polytechnique. Donc, on ne dit pas vraiment non à Polytechnique.
Non. Tu n'avais pas visé l'école normale supérieure, non ?
Non, j'avoue, je n'étais pas vraiment, vraiment en fait, ni pour être chercheuse, ni pour être professeure. Donc, du coup, l'école normale supérieure avait moins d'intérêt. Je j'avais un état d'esprit assez utilitaire. Genre, je me dis, ça fait un concours de moi à passer. J'ai pas vraiment envie de le passer juste pour la gloire. Donc, j'ai même pas passé le concours.
Mais tu es parfaitement bilingue. Alors, comment tu te partages entre deux langues et deux pays? Enfin, deux pays, je sais pas. C'est l'autre pays, c'est l'Angleterre, c'est l'Amérique.
En fait, c'est pas. Enfin.
C'est le monde.
J'ai pas particulièrement d'attache à l'Amérique, puisque, bon, comme mentionné plus haut, j'ai vécu entre l'âge de 0 et 1 an, donc j'ai pas vraiment ni de souvenirs, ni vraiment de gens que j'aurais connus comme amis d'enfance là-bas. Par contre, comme j'ai mentionné, j'ai eu ma première histoire courte qui a été publiée dans Interzone, et donc après j'ai fait pas mal d'allers-retours au Royaume-Uni, donc j'ai pas mal de gens que je connais très très bien, qui habitent au Royaume-Uni, j'ai mon agent qui est au Royaume-Uni, donc c'est vrai que j'ai pas mal d'attaches avec ce pays-là.
Et alors, tu as fait Polytechnique. Alors, il y a une question qui m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'on lisait de la science-fiction à Polytechnique? En dehors de toi, bien entendu.
Non, pas mal. Alors, après, ça dépendait des gens. J'ai traumatisé mon voisin de chambre en lui vendant La main gauche de la nuit. Alors, il n'avait jamais lu de SF, en fait. Et c'est vrai que quand on n'a jamais lu de SF, Ursula Le Guin en entrée, c'est peut-être pas très gentil. Après, il me l'a rendu, il m'a dit « j'ai jamais rien lu d'aussi bizarre ». Ok, bon, bah, ça c'est fait. mais donc après, d'une part, on avait un club BD qui était super bien fourni, avec donc toutes les BD de science-fiction. Donc en particulier, mon mari est un grand fanat de Universal War One qu'il a découvert au club BD. Et après, il y avait des clubs divers et variés. Enfin, on est des ingénieurs, on aime bien la science, donc on aime bien la SF aussi.
Avant donc, la lecture de science-fiction n'était pas aussi répandue à Polytechnique qu'on aurait pu l'espérer. Puis quand même, quand tu as l'air de nous dire que donner Ursula Le Guin la main gauche de la nuit, c'est pas un cadeau, là, je suis pas tout à fait d'accord avec toi.
Non, mais c'est la personne. Je pense qu'avec quelqu'un qui aurait un peu l'habitude, ça aurait pas été un problème, mais en fait, elle avait jamais lu de science-fiction du tout. Et ça, je ne le savais pas. Donc forcément, quand je lui recommandais ça en disant que j'avais lu, c'était trop bien. C'est certes très très bien, mais je pense que ça faisait beaucoup de choses très très différentes pour quelqu'un qui avait l'habitude de lire la littérature classique. Mais je ne pense pas que la personne en question soit forcément non plus très représentative de la population polytechnicienne.
Non,
en
je
moyenne.
La connais un peu parce que mon frère est passé par là, mais enfin il y a longtemps. Mais elle n'est pas représentative. Alors est-ce qu'elle est ensuite devenue accro à la science-fiction, elle a continué à en lire, ou bien elle a été inquiétée, disons, par ce premier contact au point de renoncer?
je crois que le prosélytisme n'a pas très très bien marché. Mais bon, c'était la première fois que j'essayais. Depuis, j'ai changé de tactique. Hein, je conseille des trucs un petit peu plus... on va dire un petit peu plus proche de ce que les gens voient au cinéma ou à la télévision, en me disant que ça fait un bon point d'entrée et puis qu'après on ira graduellement jusqu'à des choses que moi je préfère mais qui sont pas forcément toujours accessibles pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude.
Et comment est-ce que tu as découvert la science-fiction? Enfin, tu en as dit un mot tout à l'heure en disant que c'était surtout quand tu étais au Royaume-Uni. Comment ça s'est fait? C'est un point qui m'intéresse toujours beaucoup. Je te dirai après pourquoi, mais comment ça s'est fait pour toi? Comment tu l'as découvert, ce genre?
J'en lisais beaucoup quand j'étais... j'en lisais pas mal, mais sans le savoir, en fait, quand j'étais en France. Donc j'ai lu Le Seigneur de Lumière de Roger Delazny, toutes les histoires de robots d'Asimov, toutes les fondations... qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai lu pas mal de grands classiques comme ça, Frédéric Pohl... mais c'était pas... Comment dire? Je traînais beaucoup à la bibliothèque. Ma bibliothèque avait le défaut de tout organiser de A à Z. Donc, quel que soit le genre. Donc, il y avait les romans à l'eau de rose à côté de les romans type Agatha Christie à côté de Zelazny. C'était super, super embêtant parce que c'était pas forcément évident de savoir ce que vous alliez avoir quand vous tiriez quelque chose de l'étagère. Et surtout... à cette époque-là, les couvertures n'étaient pas non plus super explicites. J'ai un souvenir de, je crois que c'est Robert Silverberg, les Magies pour, là, avec les couvertures argentées qui sont super jolies, mais qui ne sont pas forcément super informatives. Donc là, en l'occurrence, j'ai eu de la chance. Mais bon, c'est vrai que j'ai eu aussi quelques surprises en le ramenant à la maison et en découvrant que ce n'était pas vraiment ce que je voulais lire. Et quand j'étais au Royaume-Uni, en fait, là-bas, les bibliothèques, elles font vraiment une classification par genre. Donc il y avait toute une section, alors pas une très très grande section, mais donc il y avait toute une section science-fiction qui était classée comme ça. Et c'est là que je me suis rendu compte que tous les bouquins que j'aimais bien, ils étaient dans la même section de la bibliothèque. Je me suis dit, tiens, au moins ça c'est pratique. Et donc j'ai commencé à taper pas mal là-dedans. C'était aussi la grande époque, je sais pas, je crois que ça devait venir de sortir, mais il y avait tous les Sandman de Neil Gaiman qui étaient juste à côté. Il y avait Dan Simmons, Hyperion, il y avait pas mal de Brian Aldiss. Enfin, je me suis fait pas mal plaisir. J'ai un peu épuisé la collection de la bibliothèque parce que je lisais très vite et beaucoup, donc j'ai dû faire toute la série d'Orson Scott Card, et puis après j'étais un peu malheureuse et du coup c'est comme ça que je me suis rendu compte que bah, c'était ça que j'aimais bien lire, et puis bon, que c'était ça que je voulais écrire aussi.
Mais si je t'entends bien, tu as découvert en quelque sorte la science-fiction par toi-même, toute seule, ou est-ce qu'il y a eu un médiateur, quelqu'un qui t'y a introduit?
Oh non, 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 pas vraiment, c'était vraiment... en fait, j'ai mis énormément de temps, il a fallu que j'aille vraiment... Alors, à Polytechnique, il y a une association de jeux de rôle, donc il y a pas mal de gens, enfin, il y a pas mal d'intersections entre l'association de jeux de rôle et les gens qui lisent de la SF, donc comme sans faire de jeux de rôle jusqu'à à peu près... il leur a fallu un an pour me convaincre que je voulais faire du jeu de rôle, mais avant ça, je traînais pas mal avec eux quand même, parce que je les trouvais très sympathiques, et du coup... Ils m'ont donné quelques bouquins, mais en grande majorité, il a fallu que j'attende de devenir auteur et d'aller traîner mes basques dans des conventions et des congrès pour trouver des gens qui partageaient mes goûts en lecture.
Oui, donc, Polytechnique, c'est pas le milieu idéal pour se mettre à écrire de la science-fiction, mais enfin, ça permet de faire bien d'autres choses. Si je t'ai posé la question du médiateur, c'est parce que j'ai l'habitude de demander aux lectrices et aux lecteurs de science-fiction que je rencontre comment ils ont découvert ce domaine. Et les réponses sont remarquablement différentes. Pratiquement tous les garçons me disent qu'ils ne savent pas quand ils ont commencé à en lire, et un peu comme toi, qu'ils ont découvert le domaine par eux-mêmes. Tandis que la quasi-totalité des jeunes filles, des jeunes femmes, me disent, peuvent me citer un introducteur, qui est le père avec sa bibliothèque, un frère, un ami, enfin quelque chose d'approchant. C'est sur la longue période, ça fait 50 ans que je pose cette question, et cette distinction m'a vraiment frappé, enfin, même s'il y a des exceptions comme celle que tu représentes. Alors, tu as cité quelques auteurs. Quels sont les auteurs? On va revenir sur ce point, parce que je crois qu'il est toujours important, qui t'ont le plus frappé, marqué, peut-être influencé. On a retenu Ursula Le Guin.
Oui, Ursula Le Guin, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avoue que, enfin, pour moi, ça a vraiment été une révélation de lire ça et de découvrir qu'on pouvait faire de la SF qui était plus focalisée sur l'anthropologie, les cultures, les rencontres de cultures, que vraiment sur le côté mathématique et physique, même si, bon, il y a quand même pas mal de mathématiques et de physique dans quelque chose comme Les Dépossédés. Asimov, pas mal. Je trouve que... Bon, c'est un peu un classique, hein, mais après, moi, ce que je trouve fascinant chez Asimov, c'est il prend quelque chose. Il prend, par exemple, les trois lois de la robotique, et après, il essaye de voir quels sont les endroits. C'est vraiment très, très mathématicien, très, très physicien. C'est de voir les endroits où il va y avoir des problèmes, ou de pousser vraiment le concept dans ses retranchements pour savoir qu'est-ce qui n'est pas couvert, qu'est-ce qu'il va y avoir comme point vraiment de rupture. Et ça, je trouve ça très, très intéressant comme approche. Plus récemment, quelque chose que j'ai beaucoup beaucoup aimé aussi, c'est Elizabeth Baer, qui a écrit toute une série de livres qui se passent sur un énorme vaisseau génération. Ça c'est et les titres m'échappent complètement. Le premier c'est Dust, et les ça s'appelle, c'est la trilogie de Jacob's Ladder. Je ne sais pas si elle était traduite en français.
Je ne pourrais pas te dire non plus, mais donc une histoire de navire à génération, et avec les transformations sociales, je suppose,
voilà,
les difficultés que ça peut représenter d'être dans un monde clos, peut-être un groupe assez limité.
Voilà, et qu'est-ce qui se passe en fait quand les vaisseaux arrivent à leur point d'origine et en fait découvrent que la planète, ça fait déjà quelques siècles qu'elle est occupée par d'autres personnes, et donc à la fois ils n'ont jamais rien connu d'autre que le vaisseau, et ils ont du mal à on va dire, se motiver pour en sortir. Et d'autre part, il faut qu'ils essayent d'argumenter avec les gens qui sont déjà là et qui n'ont pas vraiment l'intention non plus de les laisser venir comme ça s'installer avec le contenu d'un énorme vaisseau génération qui est en orbite autour d'eux. Oui, enfin, vous êtes gentils, mais on n'avait pas prévu autant de monde, là.
Occupé.
C'est ça. Allez trouver une autre planète.
Et est-ce que tu as lu des auteurs comme Frank Herbert et Philip K. Dick, ou est-ce que c'est étranger à ta culture science-fictionnelle ?
Alors, c'est plutôt mon mari qui est le fan de Philip K. Dick. Moi, j'en ai lu quelques-uns. J'ai lu, pareil, je ne sais plus comment il s'appelle en français, Maze of Death, que j'avais beaucoup aimé. C'est des gens qui font des simulations successives et en fait il s'avère à la fin qu'ils sont en orbite autour d'une étoile ou d'une planète qui est complètement détruite. Ils sont à des années-lumière de la plus proche civilisation. Ils savent qu'ils seront jamais secourus et tout ce qu'il leur reste c'est essayer de s'abrutir avec des simulations.
En français c'est Au bout du labyrinthe.
Ah,
c'est moi
oui,
qui l'ai publié d'ailleurs et demain sous une de ces couvertures métalliques qui te permettaient de repérer la chose.
Je l'ai pas lu. En fait, je l'ai lu dans l'intégrale, je crois.
Oui.
C'était qui l'autre auteur ?
Je pensais à Frank Herbert, Dune.
Ah, Frank Herbert. En fait, moi, j'ai surtout lu tous les Dunes. C'est pareil. Mon mari, il a lu tout. Il a lu les deux Sadi, etc. Moi, j'ai juste focalisé sur les Dunes. J'ai vraiment adoré Dune.
Et après, les vraies Dunes, hein, pas les
non,
faux.
Non, on est d'accord.
Les
là,
horreurs qui ont été ensuite que j'ai été non, contraint c'est... de publier, mais.
Je ne sais pas, je ne les ai jamais lus en fait. Moi,
donc les 6 volumes en anglais, voilà, cinq en français, puisque j'en avais réuni 2. Et alors ?
Oui, moi c'était les 6 volumes originaux. Après, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé Dune. Et après, j'avoue que l'intérêt c'est un peu étiolé
oui,
aussi. Mais...
C'est compréhensible vu la taille de la série. Alors là, je vais poser la question à 10 euros. Quelle serait ta définition de la science-fiction et quelle serait la raison de ton intérêt pour ce genre et de ton choix pour écrire de la science-fiction ? Est-ce que tu peux élaborer un peu ?
Oui, alors moi j'ai tendance à avoir une définition assez large de la science-fiction. Je pense que pour moi c'est quelque chose qui est soit focalisé sur le futur, soit focalisé sur la science. La part du futur ou de la science peut être plus ou moins important, donc c'est compliqué, donc je refuse de rentrer dans des choses hyper techniques. Je pense que comme ça permet d'avoir une tente qui est suffisamment large pour que les gens qui veulent s'en réclamer peuvent se mettre dessous. Ce que je trouve super intéressant dans la science-fiction, en fait, c'est vraiment de prendre des sociétés qui sont radicalement différentes, des gens qui sont radicalement différents de ce qu'on a aujourd'hui, d'inventer des univers qui sont vraiment fous, et les gens trouvent ça super, donc c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien faire ça en tant qu'auteur, puis j'aime bien aussi en tant que lecteur avoir quelque chose qui est vraiment super bizarre, que j'ai jamais vraiment vu avant, pouvoir faire des expériences. C'est un peu mon côté savant fou, je pense.
Oui, c'est le caractère, l'étrangeté, enfin le caractère étrange et étranger de la science-fiction qui te retient particulièrement. Tu lis de la littérature dite générale aussi ou peu ?
Assez peu. je lis beaucoup de... En fait, j'ai beaucoup de thrillers. Je lis beaucoup de... Enfin, de tout ce qui est roman policier. Je lis pas mal d'historique, mais par contre, de la littérature générale, pas des masses.
On va revenir à la science-fiction. Est-ce que tu as lu des auteurs français ? Tu es surtout de culture anglo-saxonne.
Alors, j'ai pas mal une culture anglo-saxonne. En français, j'ai surtout lu Heyerdahl et Jean-Claude Dugnac, en fait. J'en ai pas lu des masses.
Très bon choix.
Ah si, et bon, Pierre Bordage, c'est quand même difficile de passer à travers Pierre Bordage.
Aussi. Alors, il y a une chose... très intéressante dans tes œuvres, surtout les nouvelles, j'ai surtout lu tes nouvelles, c'est qu'elles font place à d'autres civilisations ou à la descendance d'autres civilisations que strictement la civilisation occidentale. Je pense à une nouvelle où il est question d'un monde assez mexicain. Dans d'autres cas, il s'agit de traces asiatiques, enfin extrêmes asiatiques. Ce choix est dû à tes origines ou...
En fait, c'est super difficile de faire une auto-analyse de sa propre œuvre, donc je mets le caveat avant de commencer. Je pense quand même que, en fait, pour moi, la science-fiction, on va dire occidentale, américaine, etc., on parle d'étrangeté. C'est vrai que pour moi, c'était doublement étranger, non seulement parce que c'est dans le futur, mais aussi parce que ça fait référence à des points d'ancrage culturel qui sont pas forcément non plus avec lesquels j'ai grandi. Parce que donc toute ma famille maternelle est vietnamienne, et donc du coup, j'ai pas forcément les mêmes références. Et quand j'ai commencé à écrire de la science-fiction, c'est vrai que bon, ça me bottait pas vraiment d'écrire quelque chose. Alors, américaine, vraiment zéro connexion, donc là, je me voyais très très mal avoir de la crédibilité en faisant quelque chose comme ça. Et c'est vrai, il y avait plein d'empires galactiques qui sont basés sur l'Empire romain, et je me suis dit, oui, enfin, certes, mais c'est pas vraiment quelque chose non plus qui me parle, donc je voudrais essayer de faire quelque chose qui est un petit peu plus, on va dire, personnel, ou en tout cas avec lequel j'ai plus d'atomes crochus, et donc c'est comme ça que je suis partie plus sur des civilisations type chinoise et vietnamienne. Puis alors les Aztèques, c'était juste marrant, j'ai pas vraiment d'excuses.
Oui, non, mais c'est quelque chose de très frappant, d'ailleurs d'extrêmement intéressant dans ce que tu écris, en tout cas de ce que j'ai lu, de ce que tu écrivais, parce qu'il faut quand même bien dire que la science-fiction anglo-saxonne, et plus spécialement encore américaine, est très américano-centrée, et même européenne, elle est très occidentalo-centrée, tandis que chez toi, il y a un décalage, et qu'on sent dans les personnages, non seulement dans leurs mœurs, mais même dans leurs sentiments, non ?
Bah, en fait, oui, l'autre chose qui m'a beaucoup gênée aussi, c'est que après j'en ai lu pas mal j'ai lu pas mal de romans qui se passaient dans des cultures chinoises ou vietnamiennes ou etc. Et moi, ça me paraissait toujours avoir un petit côté costume, dans le sens que c'était vraiment des gens du... En fait, je sais pas si c'est vraiment spécifique à la civilisation, parce que ça me paraissait aussi qu'ils étaient très très hommes du 20e ou du 21e siècle, et que dans le futur, avec une société radicalement différente, avec des intelligences artificielles, des vaisseaux spatiaux, différentes planètes, je pensais quand même que les gens allaient... on va dire, bon, les humains restent humains, hein, naturellement, mais que les modes de pensée, les priorités, etc., sont quand même un petit peu différentes. Je me souviens avoir lu quelque chose où tout le monde buvait du café à bord d'une station spatiale au 27e siècle ou au 28e siècle. Je me suis dit, quand même, on a dû faire un petit peu mieux que le café et les donuts, là, au petit-déj. Je me suis dit, oula, j'ai pas besoin de regarder la biographie, je pense que l'auteur est américain.
Et le pire, c'est que c'était du café américain.
Ah, oui, très probablement. Hein. Je pense qu'un Italien ou un Français aura une attaque.
Mais alors, quel effet ça te fait d'avoir surtout des lecteurs anglophones, puisque tu as principalement publié en anglais, et de n'avoir que de façon un peu limitée pour l'instant, car je ne doute pas de ta brillante carrière à venir, des lecteurs français? Ça introduit quand même une espèce de décalage, non ?
Oui, en fait, je ne fais pas ça particulièrement pour la gloire ou pour avoir des tonnes et des tonnes de lecteurs, donc ça ne me gêne pas particulièrement, mais après c'est vrai que c'est rigolo de pas du tout être connu, en fait, là où j'habite. Et après c'est vrai que... L'autre truc que je trouve... Enfin, je sais pas si c'est marrant, mais il y a énormément de gens qui ont entendu parler de moi parce que j'écris en anglais, parce que j'ai eu des prix, etc. Et c'est symptomatique, hein, du fait que la science-fiction qui est publiée en langue anglaise est particulièrement américaine et va vers les autres pays et prend pas vraiment autre chose des autres pays. Donc, oui. J'hésite entre... De temps en temps, ça me fait bien rigoler. De temps en temps, ça me fait un peu désespérer. Mais...
Oui, parce que tu as eu plusieurs prix déjà. Je consulte mes notes et je dois dire qu'elles sont un peu trop. Qu'est-ce que tu as eu comme prix ?
J'ai eu deux Nebula et un Locus, pardon, et un British Science Fiction Association Award en 2010 ou quelque chose comme ça. Et après, plusieurs fois nominé pour les Hugo, mais bon, ça n'a pas encore très bien marché. Je désespère pas, un jour, peut-être.
De Nebula, c'est pas rien, parce que c'est le prix, enfin pour ceux qui ne le sauraient pas, qui est décerné par les professionnels. Oui. Et donc, c'est...
c'est un très joli trophée. Ça, j'avoue qu'il a eu beaucoup de succès à la maison. C'est un espèce de truc en lucite avec des planètes à l'intérieur et des petites galaxies qui sont à l'intérieur du verre. Donc, et tous les ans, ils changent le design. Donc j'en ai deux, ils sont pas pareils.
Ah, dis donc, j'ai de la chance. Hein, ça.
Bon, c'est suffisamment lourd pour qu'on puisse assommer quelqu'un avec, par contre.
Hein, c'est... bon, c'est, Tu es très porté sur le combat?
Non, pas spécialement. C'est juste que j'ai dû le ramener en revenant.
Chez moi.
En revenant des... enfin, c'est pas que je devais le ramener. Ils m'ont proposé de l'envoyer par la poste, mais je me suis dit quand même, un truc comme ça, je préfère l'avoir sur moi et être sûr de là où c'est.
T'as eu de la chance parce que c'est un beau truc. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le Pilgrim Award. Bon, c'est joli, mais enfin, c'est jamais qu'une plaque de bronze, enfin de métal, soigneusement gravée sur un cadre en bois parfaitement passe-partout. Tandis que toi, c'est une œuvre d'art. Enfin, je... Alors, nous allons venir à un sujet particulièrement douloureux pour moi. Et tu écris aussi de la fantasy.
Ça m'arrive, oui.
Alors, et comment tu... Explique-nous un peu quelle fantasy tu écris, pourquoi tu écris de la fantasy et comment tu te partages entre la science-fiction et la fantasy. Alors, je te dis tout de suite, je crois qu'ici, à peu près tout le monde le sait, sauf toi, c'est que je ne suis pas très porté sur la fantasy, même si j'ai publié Ursula Le Guin et puis un Stephen King, le territoire... je ne suis pas très porté sur la fantasy parce qu'elle me paraît ascientifique ou anti-scientifique, enfin, etc. Enfin, toi, tu nages là-dedans avec bonheur, donc explique-nous un peu ce que tu fais dans ce domaine et comment tu fais le rapport avec la science-fiction, si tu en fais un.
Une grosse partie de mon boulot de tous les jours, c'est prendre des technologies et puis voir ce qu'on peut en faire avec dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Donc particulièrement avec la SF à projection, on va dire très très dans un futur très 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 proche, dans 50 ans, j'ai vraiment l'impression de refaire mon boulot. Et c'est sympa, mais bon, comme quitte à avoir 2 carrières, je préférais qu'elles soient un petit peu différentes. Donc c'est pour ça que j'aime bien écrire de la SF qui est beaucoup d'années dans le futur, comme ça me change. Ou alors de la fantasy qui est soit dans le passé, soit dans des choses qui s'inspirent du passé. Donc là aussi, c'est pareil, ça me change un peu. J'aime bien lire de l'heroic fantasy, mais j'avoue que j'ai vraiment du mal à en écrire. Je suis plutôt le genre de personne qui irait tuer le héros au bout de 3 pages parce qu'il m'agace. Et puis l'empereur du mal, je ferais quelque chose de sûrement très très efficace. Enfin, j'ai un esprit un peu... de contradiction, on va dire. En fantasy, j'ai écrit donc les chroniques d'Obsidian et de Sang, c'est un thriller qui se passe dans un univers où les croyances aztèques sont réelles, donc on peut faire de la magie avec du sang, on peut invoquer les dieux. Et ce qui m'a vraiment intéressé là-dedans, en plus de la magie, c'est vraiment tout l'aspect... en fait, montrer un univers qui marche sur des principes différents. Et là, c'est pas hyper différent finalement de la science-fiction. C'est sûr, c'est pas basé sur de la science, mais après, il y a une certaine logique dans la façon de concevoir les choses. Donc, effectivement, on peut faire de la magie avec du sang. Donc, quelles sont les conséquences de ça sur les sacrifices humains, etc. Et le dernier que j'ai écrit, House of Shattered Wings, c'est un peu de la fantasy et dans le sens qu'il y a de la magie et ça tire aussi pas mal de la narration post-apocalyptique. En fait, j'ai dévasté Paris suite à une guerre magique, donc les gens se battent dans les ruines pour survivre. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de sensibilités qui sont pas forcément purement fantasy. J'avoue que là, j'étais un peu je pense qu'on va pas forcément être d'accord, hein, mais j'ai un état d'esprit assez utilitaire, donc si je peux l'utiliser, pourquoi pas. Et puis aussi, je suis très très consciente du fait que la science, ça bouge beaucoup, beaucoup. Donc s'il y a 150 ans, par exemple, vous prenez quelqu'un au hasard dans la rue, vous allez lui expliquer qu'un jour on va faire de la mécanique quantique, qu'un jour on va faire de la relativité générale. Il va vous regarder et vous dire peut-être, sûrement, mais ça me paraît un peu bizarre quand même. Et donc j'ai du mal à croire que dans 400, 500 ans, la science va rester exactement comme elle est aujourd'hui. J'ose espérer qu'elle ne va pas rester comme aujourd'hui et qu'on n'a pas fait le tour de tout. Donc du coup, toutes les histoires de plausibilité scientifique, etc., quand quelqu'un me dit ça, c'est pas physiquement possible, tu peux pas mettre ça dans un roman, ma réaction c'est toujours avec les lois de maintenant, oui, c'est pas physiquement possible, mais bon. Pourquoi pas dans 400 ans. Et donc après, je suis un peu une approche assez lâche sur le sujet.
Oui, je comprends. D'ailleurs, ta conception de la magie, enfin telle que je viens de l'entendre, j'avoue que je n'ai pas lu tes livres de fantasy. En fait, elle est assez proche de celle d'Ursula Le Guin dans Terre-Mère, c'est-à-dire c'est l'idée d'un système de règles logiques qui sont enchaînées, enfin qui sont reliées, c'est pas n'importe quoi, enfin, qui sont reliées les unes avec les autres, mais qui sont différentes des règles du monde telles que la science nous les dévoile petit à petit. C'est bien ça le principe.
Ouais, ça dépend vraiment des. Après, j'ai fait un peu de tout comme système. J'ai fait des systèmes très rigides comme ça, et après, j'ai fait des systèmes un petit peu. Enfin, ça dépend vraiment de l'effet. Après, j'ai des choses qui sont un petit peu plus. Je sais pas si. Je pense qu'il y a une frontière assez mince, en fait, hein, entre le mysticisme et l'horreur, mais où il se passe des choses qui sont, on va dire, pas expliquées, difficilement expliquées, mais qui, du coup, sont aussi des choses que les gens contrôlent très mal. Donc, c'est. Ça a des effets intéressants, mais c'est pas après du tout le même genre de narration, effectivement. C'est quand vous lancez un sort et vous savez pas si la chose va vous exploser à la figure, c'est quand même très très différent de savoir de bon, ça y est, j'ai les ingrédients du sort, je lis la formule et je suis raisonnablement sûr que bon, soit il va rien se passer, soit il va se passer ça, soit il va se passer ça.
Oui, je comprends. Mais quand tu dis que la science évolue et que tu espères bien, et moi aussi, qu'elle évoluera, enfin qu'elle subira même de véritables mutations, des changements de paradigme dans les décennies et les siècles à venir, il reste que la science du 19e siècle ou celle du 16e siècle, ou même des sciences beaucoup plus anciennes, nous reste intelligible. Si bien que certains romans anciens de science-fiction qui font allusion, qui utilisent les sciences dépassées, reste intéressant.
Oui.
Alors,
je ne
suis pas sûr qu'il faille.
Non, mais après, je pense qu'il reste limité, quoi. C'est comme la mécanique newtonienne continue à marcher, mais il s'avère qu'il se passe des choses plus intéressantes quand on va à des vitesses proches de la lumière ou des choses comme ça.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, on voit bien. Enfin, je m'intéresse beaucoup à l'histoire des sciences et on voit bien à la fin du 19e siècle la perception qu'un certain nombre de grands physiciens et de grands mathématiciens, je pense à Henri Poincaré en particulier, ont du fait qu'il va falloir changer quelque chose. Hein. À la fin d'un de ses essais dont le titre m'échappe, là, enfin, c'est. Oui, la question de la science, évidemment. Poincaré montre que ça ne marche pas avec l'éther, que ça ne marche pas. Enfin, 20 ans après, entre la relativité et puis la physique quantique, les 6 ou 7 problèmes que soulève Poincaré, je ne dirais pas qu'ils sont réglés, on en est très loin, mais ils sont entièrement reformulés. Au contraire de ce qu'un certain physicien, par ailleurs tout à fait estimable, Michelson disait et écrivait, la science est terminée, il reste à calculer la 6e ou la 7e décimale. C'était à la veille de toutes les révolutions que nous avons connues au 20e siècle.
Je trouve ça absolument fascinant, le moment du changement de paradigme, le moment de ça ne marche pas, ça ne marche pas, et puis en fait c'est parce qu'on est complètement dans le mauvais état d'esprit et qu'il faut vraiment tout remettre dans un autre cadre. C'est vraiment quelque chose que je trouve génial.
Oui,
quoi.
C'est Carlo Rovelli, un physicien italien qui travaille en France d'ailleurs, a consacré plusieurs livres justement à ces changements de paradigme, et en particulier, enfin je m'éloigne un peu de ton œuvre et de notre sujet, mais en particulier il a longuement évoqué la figure d'un philosophe grec du 6e siècle avant notre ère qui est Anaximandre. Et Rovelli et d'autres d'ailleurs voient en Anaximandre le fondateur de la pensée scientifique, parce que Anaximandre déclare qu'il faut chercher non pas du côté des dieux mais dans la nature elle-même les raisons du fonctionnement des phénomènes. Hein, c'est bon, c'était un élève de Thalès dont tu as peut-être entendu parler. Alors, est-ce que tu as quelques projets? Est-ce que tu nous peux parler de tes projets littéraires? Et pourquoi pas, d'ailleurs, de tes projets professionnels, si ce n'est pas indiscret.
En fait, là, je suis sur la suite du roman que j'ai sorti en août, dont la date de livraison approche. Donc, il faudrait, comme qui dirait, que je me préoccupe de ça. Et après ça, je sais pas trop. J'ai en projet de faire un roman mosaïque, donc en mettant quatre novellas à la suite, avec des personnages qui se retrouveraient d'une génération à une autre. Mais ça fait 2 ou 3 ans que c'est en projet. À chaque fois, je recule en me disant « Bon, il va falloir que je fasse une tonne de recherches, mais j'aimerais bien le faire quand même. »
Et professionnellement ? Tu n'as peut-être pas envie d'en
parler ? Oh, non, enfin, professionnellement, il n'y a pas grand-chose...
Ce que tu fais te passionne ? Ce que tu fais te passionne ?
Ce que je fais, oui, est très intéressant. En fait, je rénove la ligne 1 du métro de Lille. Donc là, on fait les premiers. Enfin, on commence à avoir des essais sur site qui marchent et des choses comme ça. Donc c'est vraiment très, très intéressant. Mais bon, c'est pas.
Elle sera entièrement automatique ?
Elle est déjà entièrement automatique. Déjà mais entièrement en fait, on remplace le pilotage automatique par un pilotage de nouvelle génération.
Je vois. Enfin, j'étais en retard dans le métro, parce que je ne savais pas que le métro...
Ah, c'était un des tout premiers métros automatiques de l'époque, mais après, c'est vrai que c'était assez lourd. Donc... Et puis là, il est surtout trop petit, en fait.
Ouais.
Ils ont des trains de... Je crois que c'est du 26 mètres, et en fait, ils sont bourrés à l'heure de pointe, et du coup, ils veulent reprendre toute la ligne pour doubler la capacité.
Qui permettrait d'accélérer les fréquences ?
Et d'augmenter en fait le nombre de voyageurs transportés. D'accord. Ils vont mettre des trains 2 fois plus longs, notamment. Et du coup, c'est pas mal de réaménagement. Et puis, tout le système doit être un peu... Enfin, quitte à tout refaire, autant remettre un peu à plat et refaire ça sur des bases un peu plus d'aujourd'hui que reprendre vraiment le système des années... Pouf, il doit dater du début des années 80, quelque chose comme ça.
Je vois. Alors, la question que se posent tous les écrivains qui ne sont pas écrivains à temps plein, comment fais-tu avec ton travail, qui est certainement très prenant, qui te conduit à beaucoup de déplacements, ta famille, et en particulier ton charmant petit garçon, comment fais-tu pour trouver le temps d'écrire ?
Déjà, j'ai 1 heure de métro le matin et 1 heure de métro le soir. Et donc, quand j'arrive à m'asseoir, c'est pas mal pour pouvoir écrire. Puis quand j'arrive pas à m'asseoir, c'est pas grave, j'ai un carnet. Donc, je peux écrire debout. Je suis devenue une spécialiste d'écrire très très mal des idées d'histoire avec une écriture qui se déforme au fur et à mesure que le métro prend les virages. D'autre part, j'ai un mari qui est fort sympathique et qui me prend le petit le week-end ou de temps en temps pour que je puisse écrire. Et puis c'est vrai que bon, mon fils a 2 ans. Le gros avantage de 2 ans, c'est généralement, je croise les doigts, mais la plupart des soirs où ça se passe bien, à partir de 9h, c'est bon.
Oui, les nuits sont plus tranquilles que dans un passé récent.
C'est ça. Et puis les nuits sont longues surtout, donc ils se couchent tôt.
Oui,
moins.
C'est très bon pour le développement de son cerveau. L'enfant doit beaucoup dormir. Ouais. Bon, on pourrait peut-être passer aux questions de la salle. Vous découvrez peut-être Aliette de Bodard. Qu'est-ce que vous avez envie de lui demander ? Je suis un peu dur d'oreille, donc j'aimerais autant que quelqu'un prenne le micro et le promène. Merci.
Il marche ?
Non, je voulais demander à Aliette de Bodard si elle parlait vietnamien, puisqu'après tout, sa mère doit avoir le vietnamien comme langue maternelle, et à la maison, est-ce que...
Alors, ça dépend de la définition de parler. Je peux faire... tous les noms pour toute la famille maternelle, ce qui est très important parce qu'il ne faut pas se tromper de comment on appelle un oncle ou une tante, et il y a plusieurs mots. Je peux faire pareil tout ce qui a trait à la nourriture assez facilement. Après, on commence à rentrer un peu plus dans des choses un petit peu plus difficiles.
Donc les références culturelles vietnamiennes, qui sont nombreuses dans ce que j'ai pu lire, sont médiatisées ? Tu as lu des textes en traduction ou des choses comme ça ?
Soit j'ai lu les textes en traduction, soit c'est des choses que j'ai entendues. Donc j'ai pas mal de références à des contes de fées et tout ça. C'est des choses que me racontait ma grand-mère, par exemple. Disons que je... parle suffisamment bien pour pouvoir faire une recherche sur Wikipédia et aller chercher l'article sur Internet pour savoir à peu près de quoi il parle, quoi. Après, je pourrais pas avoir une conversation philosophique avec quelqu'un ou une conversation, même une conversation très technique, c'est difficile, quoi. Puis à l'écrit, c'est quand même nettement plus facile qu'à l'oral.
Tu as voyagé au Vietnam ?
Oui, je suis allée plusieurs fois.
Et alors, quelle impression ça t'a donné, ça t'a fait ?
C'est vraiment très bizarre parce que c'est à la fois très très familier et à la fois étranger. Enfin, à cause de l'historique, j'ai pas pu revenir au Vietnam. Enfin, on n'a pas pu aller au Vietnam avant que je sois adulte, en fait. Donc du coup, c'est... D'une part, il y avait déjà ce décalage de pas avoir grandi... Enfin, d'avoir grandi avec une version de la culture qui était en fait la version de la diaspora. Et puis d'autre part, il y a aussi... on n'aborde pas les choses de la même façon quand on est adulte, quand on est enfant. Et puis le pays a par nécessité, beaucoup changé et continue à changer très 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 vite. Je suis allée à 3 ans d'intervalle et c'était absolument hallucinant. Enfin, ma famille est de Saigon, donc c'est hallucinant de voir à quelle vitesse la ville se développe et la société change, quoi.
Et est-ce que tu as visité d'autres pays du sud-est asiatique, la Chine, le Japon
En fait, non, parce qu'à chaque fois qu'on réussit à se motiver pour aller dans le coin, on se dit que ce serait un peu bête de ne pas aller au Vietnam. Donc,
oui, tout à fait.
J'avais réussi à aller plus loin. Donc, à un moment où on a failli aller à Singapour et en fait, on s'est dit que non.
Oui, je comprends. D'autres questions ?
Écrire en anglais ou bien aussi écrire en français, peut-être les deux. Passer de l'anglais, l'abandonner pour n'être qu'en français ou pas. Est-ce que c'est une question qui a un sens littéraire, entre autres, pour vous ou est-ce que c'est relativement indifférent?
En fait, le souci, c'est que ça demande beaucoup de temps d'avoir une carrière déjà en anglais. Donc la perspective de devoir en plus en maintenir une deuxième dans une deuxième langue me fait déjà reculer. Après, c'est vrai que c'est deux langues différentes. Donc foncièrement, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes... Il y a une différence de culture. Et puis il y a aussi une différence vraiment au niveau des phrases où il y a des choses qui passent en français, il y a des choses qui passent pas en anglais et vice-versa, quoi. Donc c'est marrant à voir, bien que j'arrive à glisser quelques trucs qui font hausser les sourcils de mon éditeur et qui me dit « tu peux pas faire ça ». Oh merde, c'est sûr.
Oui, mais tu connais parfaitement le français. Pourquoi je ne parviendrais pas à écrire en français? Tu sais à quel point ça m'intéresse. je suis le prédateur, c'est l'histoire.
Non, mais c'est pas... J'ai beaucoup pris l'habitude... Il y a le fait d'écrire, puis après il y a le fait que je vais à pas mal de congrès, des choses comme ça, c'est pas mal le contact et en ce moment j'ai vraiment un gros gros problème de temps, ce qui ne surprendra personne, j'ai déjà vraiment du mal à sortir les choses que je dis que je sors. Je me plains pas d'être super occupée, mais après c'est vrai que c'est compliqué.
Bon, enfin, espérons quand même qu'on lira Aliette non seulement en traduction, mais un jour dans notre langage. Et d'autres questions ?
Bonjour, je ne vous connaissais pas avant, donc je ne connais pas du tout vos récits, mais j'ai cru comprendre que vous écrivez donc en anglais. Si jamais vous essayez un jour d'écrire en français juste pour un livre en France, un roman spécialisé en français, vous pensez que vous garderez le même style ou vous, au contraire, vous essayerez d'être plus dans le style français, enfin, des écrivains français? Ça change pour vous
C'est compliqué parce que j'ai pas vraiment conscience d'imiter un style en particulier, bien que bien sûr évidemment le fait d'écrire c'est un dialogue perpétuel avec tous les livres qu'on n'a jamais lus, donc
parce que dans une autre conférence vous aviez dit que vous aviez vécu en Grande-Bretagne.
Oui.
Donc c'est pour ça aussi que vous avez commencé à écrire en anglais, donc vous aviez sûrement été un petit peu vous avez pris l'habitude de l'écriture avec laquelle vous avez commencé. Donc des récits au début en anglais, donc vous avez écrit en anglais dans ce même style. Enfin, donc pour savoir si un jour vous vouliez peut-être essayer un style français avec justement changer de style.
Je pense que ce serait pas tout à fait le même style, mais c'est plus parce que ce serait pas tout à fait la même langue. Après, je pense que ce serait plus difficile de changer radicalement l'approche, quoi.
Mais il y a de grands exemples d'écrivains de ta valeur qui se sont exprimés dans deux langues. Joseph Conrad, qui est passé du polonais à l'anglais. Nabokov, par exemple. Enfin, il y en a certainement d'autres. Il y a quelques écrivains italiens qui écrivent aussi très facilement en français. Bon, cela dit, tu as l'orée de ta vie, de ta carrière. Tous les espoirs sont permis. D'autres questions ?
De même que la demoiselle, je n'ai pas lu vos livres. Vous dites que vous n'écrivez pas en français. Comment est-ce que vous gérez la partie traduction de vos œuvres anglaises ? Est-ce que vous avez un regard dessus ? Est-ce que vous pouvez contredire la traduction ?
Alors, je demande à relire la traduction. La première personne à qui j'ai demandé ça, c'était mon traducteur de mon roman, à qui, paraît-il, j'ai filé une attaque cardiaque, parce qu'il m'a dit après que... Généralement, la plupart des gens ne sont pas en position de critiquer la traduction. Je reprends très rarement des choses. En fait, c'est plus des choix de traduction sur des termes techniques ou sur des noms que j'ai inventés. C'est pas que la traduction soit mauvaise. C'est plus un choix personnel de bon. Moi, j'aurais pas dit ça comme ça et je préférais que ce soit traduit comme ça. Et après, c'est vrai. Je disais ça en conférence il y a une heure, hein, mais c'est une expérience assez particulière parce que c'est vraiment cette impression que quelqu'un d'autre a pris mon intrigue, mes personnages, et puis a écrit quelque chose qui ressemble beaucoup, mais qui est quand même légèrement différent.
Oui, toi, tu as la chance d'être parfaitement bilingue. Moi, il m'est arrivé comme éditeur d'avoir affaire, très rarement, ça m'est peut-être arrivé deux ou trois fois en tout, à des auteurs américains d'ailleurs, qui estimaient avoir le droit et même le devoir de relire leur traduction, ce que je trouve tout à fait légitime. L'unique problème, c'était que les modifications qu'ils suggéraient étaient franchement atroces.
Ah oui, là, ça devient compliqué. Bon, diplomatiquement, enfin... ça devient compliqué.
Heureusement, j'ai fait beaucoup de diplomatie dans ma carrière d'économiste, donc j'ai survécu. Eux aussi, en général. Les traducteurs, je ne sais plus. Je crois qu'on a dû en perdre sur le champ de bataille. Et tiens, je vais me permettre une question qui est liée à la fois à ton goût pour la science-fiction et à tes activités professionnelles. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir de l'intelligence artificielle forte ?
Oula. Bonne question. Je suis un peu de l'opinion que je pense que ça va arriver. Après, je suis pas sûre qu'on soit capable de le reconnaître, en fait. Parce que je pense qu'il y a un grand focus dans l'intelligence artificielle en général, et enfin forte aussi, hein, sur avoir quelque chose qui quelque part ressemble à la conscience humaine, qui est capable même le test de Turing, hein, c'est d'avoir quelque chose qui est capable de communiquer avec un être humain de telle sorte qu'on se rende pas compte que c'est un ordinateur. Et c'est très humano-centré. Je pense que quelque chose qui même va avoir quelque chose qui ressemble à une conscience, à une intelligence sur un substrat de silicone et avec des bits et des langages de programmation, etc., ça risque... Je suis pas sûre qu'on arrive à parler, en fait, dans un premier temps. Ça va plus comme une rencontre avec un extraterrestre, quelque part.
Oui, enfin, en ce qui me concerne, je suis toujours très réservé, pour dire le moins, sur la possibilité que se réalise le programme initial de Minsky, c'est-à-dire d'une intelligence artificielle qui soit l'équivalent ou supérieur à l'intelligence humaine. Alors, c'est pour ça que je préfère distinguer entre compétence et intelligence. C'est-à-dire, je pense qu'on peut doter des machines, comme les métros d'ailleurs, de toutes sortes de compétences extraordinairement compliquées, mais sans que ça implique jamais l'intelligence multiforme et surtout la conscience qu'ont les humains. Enfin, c'est un débat que j'ai avec presque chaque fois que j'en ai l'occasion, et c'est pour ça que je me suis permis de poser cette question. Allez, encore une question dans la salle, et puis on va déjeuner. Ou deux, il n'y a pas le feu.
Par rapport à l'intelligence artificielle, il y a des projets intéressants au MIT, entre autres, je crois, où est-ce qu'ils ils vont créer un robot qui est le plus humain possible à certains égards pour le doter d'une intelligence, justement, qui sera humaine. Mais bon, une question... Comme ce que vous écrivez est assez varié, la fantasy, la science-fiction avec différentes saveurs inspirées de différentes cultures, est-ce qu'il y a une stratégie à votre choix de projet? Est-ce que vous essayez de cultiver des thèmes récurrents d'une œuvre à l'autre, ou est-ce que vous écrivez simplement le projet qui s'impose spontanément à chaque moment? Comment vous y prenez?
Alors, je suis sûre qu'il y a des façons très intelligentes de gérer une carrière en choisissant avec soin ses projets. Je pense que là-dessus, j'ai pas franchement été un succès, dans le sens que j'écris ce que j'ai le plus envie d'écrire à un moment donné, et après, je vois ce qui se passe avec. Alors, je tempère ça par le fait que, bon, il y a quelques années, avec mon agent, on avait une discussion avec, c'est gentil ce que tu fais, c'est très bien, mais il faudrait que tu essayes quand même d'écrire des choses un petit peu plus commerciales. Et donc je lui ai proposé deux choses, et il m'a dit va pour la deuxième chose que tu m'as citée. J'ai essayé d'écrire, et je lui envoie les trois premiers chapitres. Il m'envoie un mail de deux lignes qui est-ce que tu as un créneau pour qu'on se parle au téléphone? Oh là, ça commence pas bien. Et donc il me dit au téléphone très gentiment, écoute, c'est pas un problème de compétence, hein, c'est très bien écrit, mais je te connais bien, t'es en train de t'emmerder pour 2 sous de l'heure, donc oublie tout ce que je t'ai dit sur le commercial, écris ce qui te fait plaisir, et puis après je me débrouillerai avec. Et je pense qu'il a dû raccrocher, pousser un grand soupir et se dire que décidément ces auteurs de SF c'était vraiment incontrôlable.
C'est un excellent agent, est-ce que je peux avoir son numéro de téléphone? Non, parce qu'il a très bien compris les choses. Moi, j'ai fréquenté pas mal d'écrivains, pas seulement d'ailleurs dans le domaine de la science-fiction. Et je ne crois pas vraiment aux carrières qui sont prédéterminées comme ça et quelqu'un se construirait. Il y a une chose qui m'a frappé en tant qu'éditeur, c'est que chaque écrivain, ou presque, il y a quelques exceptions, a un registre, et en particulier un registre de qualité. Et quand un écrivain très populaire essaye de faire de la vraie littérature, c'est généralement de la catastrophe. Ça tourne généralement à la catastrophe. Et inversement, j'ai essayé parfois de convaincre de bons écrivains, en particulier dans le domaine de la science-fiction, d'écrire des thrillers, enfin des choses beaucoup plus grand public, dans l'espoir de les tirer de situations économiques un peu délicates. Et ça n'a jamais marché. Donc je crois qu'on travaille beaucoup avec son intelligence, avec sa culture, mais on travaille aussi beaucoup comme écrivain avec son inconscient, et il faut se laisser porter par lui. Je ne sais pas ce que tu en penses.
En fait, moi je me souviendrai toujours d'une discussion qu'on a eue à un workshop d'écrivain. On s'est pris une maison avec 6-7 copains et on a écrit pendant 4-5 jours, et j'avais une amie qui désespérait un peu et qui disait la science-fiction, le public est vraiment très réduit, je pense que ce que je devrais écrire c'est un roman à l'eau de rose historique, clairement j'aurais plus de lectorat. Et une deuxième amie qui a rigolé, puis quand elle a arrêté de rigoler elle a regardé et lui a dit écoute, je te connais, au bout de 2 chapitres, les amants, tu les aurais transformés en zombies parce que ça te hérisserait le poil comme pas possible et tu trouverais pas ça assez original. Et puis après, un petit peu plus loin, tu tuerais l'un d'entre eux juste pour rire, et voilà, ce serait la fin de ta carrière en tant qu'écrivain de romans à l'eau de rose. Je dois avouer que foncièrement, elle a pas tort, qui est bon, si vous avez pas vraiment une passion et la compréhension vraiment viscérale de ce qui va avec le genre dans lequel vous écrivez, c'est quand même, c'est pas une carrière dans laquelle c'est vraiment possible de persévérer en n'ayant aucun attrait pour la chose.
Cette amie n'avait pas suivi les cours de l'université Harlequin, peut-être?
Non, ni l'un ni l'autre, je crois, mais bon.
Bon, apparemment, vous êtes tous informés et satisfaits. Donc là-dessus, je vous souhaite un très bon appétit et je remercie Aliette de sa coopération et de tout ce qu'elle nous a dit d'aussi intéressant.
Merci beaucoup et merci à tous.